chacune. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et encore plus dans le contexte actuel. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venu au culte aujourd'hui, dimanche dernier, mais ma première réaction samedi, il y a 10 jours, quand quelques collègues m'ont téléphoné en apprenant aussi la nouvelle des attentats, c'est « on fait quoi ?» Et ma réaction c'est « mais on manifeste qui on est en tant que chrétien ?» On se retrouve, parce que c'est une part de notre identité. On se retrouve aussi pour prier que Dieu dirige les autorités. C'est pas grand chose encore, je ne sais pas si vous êtes venu avec un peu de peur ou pas ce matin, mais ça nous donne une toute petite perception de ce que les chrétiens ont vécu après la résurrection du Seigneur. À se retrouver le dimanche, jour œuvré, sachant qu'il risquait l'arrestation, peut-être la mise à mort, tout simplement parce qu'ils appartenaient au Seigneur. Alors ce matin, au lieu de parler plus des actualités, je vous propose un passage qui nous cadre cela du point de vue de Dieu lui-même, mais aussi qui nous parle très directement, qui répond aux diverses questions de qu'est-ce que nous faisons ensemble le dimanche dans le culte. Pour ça, je vous propose la lecture du psaume 96, qui est une invitation à tous les peuples de toute la terre d'adorer l'Éternel. Et donc nous y sommes concernés, mais il y a non seulement les questions d'adorer, mais les précisions qui sont apportées dans ce passage. Comment le faire de manière qui glorifie le Seigneur? Lisons tout le psaume, il n'est pas très long. Psaume 96. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que de faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. La campagne et tout ce qui s'y trouve aussi soit en fête. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient, oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Voilà une bonne moitié de ce psaume qui explique pourquoi nous pouvons être dans la confiance, dans la joie, dans l'attente de Dieu. Ça répond à ce cri du cœur, Seigneur, justice. Quand il y a le sang versé qui crie, justice, depuis, comme l'Épître aux Hébreux le dit, depuis le sang d'Abel, Jésus nous a apporté une meilleure réponse par son sang, ce que nous venons de célébrer, par notre participation à la table du Seigneur. L'Éternel règne, le prenons-nous vraiment, que rien n'échappe à son regard. Voilà pourquoi nous sommes là. Pour répondre à cette invitation à l'adoration que nous trouvons dans ce psaume. Et justement, dans le détail, nous avons l'invitation, c'est la première partie du psaume, les 3 premiers versets, c'est l'invitation universelle à adorer Dieu, à le confesser pour qui il est. Ensuite, nous avons les raisons pour cela, les versets 4 à 6. Parce qu'il est un grand Dieu, sa gloire dépasse toute autre gloire, sa splendeur, tout ce que nous avons chanté depuis tout à l'heure, tout ce que nous avons lu, non seulement de Dieu, mais ce qu'il déverse sur nous, en nous ayant rachetés, adoptés, fait de nous ses enfants, héritiers et co-héritiers avec Christ. Ensuite, il aborde la manière comment l'adorer de manière digne, acceptable. Ensuite, il revient à cette perspective. Oui, la terre est ferme. Nous ne sommes pas ébranlés. Quoi qu'il puisse nous tomber dessus, parce que l'Éternel règne, parce qu'il est le maître, parce qu'il est aussi le juste Dieu. Voilà une perspective globale déjà pour le contexte dans lequel nous vivons ces semaines-ci, ce qui risque de durer, puisque là aussi la parole annoncée, avant l'avènement du Seigneur, il y a beaucoup d'autres choses qui vont se passer. Mais nous pouvons rester fermes, inébranlables, confiants que Dieu est fidèle, quoi qu'il puisse arriver dans ce monde-ci. Dans une telle perspective, si nous sommes cohérents, la première réaction, c'est adorer Dieu. Sans faire une étude approfondie ce matin, c'est très intéressant l'usage de l'adoration dans l'Ancien, dans le Nouveau. Pour l'hébreu, petite parenthèse, mais malgré le temps qui passe, souvent, si on traduisait littéralement, c'est en se prosternant, il se prosternait. Et ça se passait bien plus souvent dans les pages de l'Ancien Testament, hors du contexte du temple, que dans le temple. Juste un seul exemple, par exemple, Gédéon, quand Dieu lui dit de descendre dans le camp, il a peur, il écoute à travers la tente le rêve raconté, il se rend compte que Dieu lui a déjà donné la victoire. Qu'est-ce qu'il fait? Au milieu des ennemis, il se prosterne et il adore Dieu. Pouvez-vous adorer Dieu ce matin en dépit des circonstances, au milieu des circonstances difficiles et pas uniquement les menaces d'attentats, mais votre propre situation personnelle? Quand on voit Dieu tel qu'il est, quand on sait ce qu'il a fait pour nous, c'est ça la réponse. Et c'est pour ça qu'il y a un enseignement sur l'adoration dans ce psaume. Une première remarque à faire justement, donc, la louange, l'adoration n'est pas une question d'ambiance, d'atmosphère. C'est une réponse, une prise de conscience que Dieu est là, que Dieu a agi à notre égard. Et donc le retour immédiat et normal doit être l'adoration. C'est une réponse qui vient du cœur et non pas d'un ordre du culte, un choix de cantique, ce n'est pas l'atmosphère des cantiques, leur ambiance, même leurs paroles, qui créent l'adoration. Jésus a fait une reproche très sévère aux croyants de son époque, en Matthieu 15, verset 8, où il dit « Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honorer des lèvres. » Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais son cœur est éloigné de moi. C'est pas parce que nous sommes là que nous chantons, même fort, que nous sommes vraiment en train d'adorer Dieu. On peut débrancher le cerveau et le cœur et mettre la bouche en route tout seul. C'est pour ça que Jésus dit aussi à la femme samaritaine au puits, ceux qui adorent Dieu l'adorent. Comment? En esprit et en vérité. Esprit, parce que c'est la réponse de notre esprit à l'esprit de Dieu, que nous sommes ses enfants, que nous sommes des rachetés. Et en vérité, c'est-à-dire avec la droiture de placer Dieu à la première place, de reconnaître qui nous sommes, que tout est par grâce, et non pas selon nos mérites, mais aussi que Dieu règne. On l'approche peut-être un peu plus. Voilà, est-ce que c'est mieux? Oui, en effet. La technique doit suivre un peu aussi. Voilà, c'est mieux. Première raison, et Dieu nous donne ce privilège de pouvoir l'adorer comme l'apôtre Pierre le dit au chapitre 1 de 1 Pierre, nous tressaillons même d'allégresse sans encore l'avoir vu, sachant que nous sommes des rachetés et que le jour viendra où nous le verrons dans sa gloire pour pouvoir nous préparer, c'est la grande répétition sur terre, pour rejoindre toute cette foule, multitude de peuples, langues, tribus, nations que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse qui adore l'agneau. Sans encore le voir, il nous donne ce choix, ce privilège de pouvoir le faire, nous, en engageant notre volonté, toute notre être. Alors, dans cela, considérons ce que nous dit ce psaume sur notre manière d'adorer. Première chose aussi, un peu en remarque préalable, je suis dans l'Ancien Testament, mais il y a une différence entre nous, en tant que chrétiens, Église, et l'adoration dans l'Ancien Testament. Pourquoi ? Si nous étions encore dans l'Ancienne Alliance, il faudrait aller à Jérusalem pour adorer le Seigneur, parce qu'ils ne pouvaient le rencontrer qu'au Temple. Mais que dit le Seigneur pour nous, son peuple, l'Église ? Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Nous sommes libérés des rites et rituels, de toutes les contraintes d'un déplacement géographique, parce que nous sommes déjà dans son royaume dans ce sens-là. L'Église est la manifestation visible du royaume de Dieu sur cette terre, puisque Dieu est présent là, ici, dans ces lieux. Alors la tournure de dire « allez à l'Église », c'est pas bon. Nous rejoignons l'Église quand nous nous retrouvons, que ce soit pour le culte ou d'ailleurs même en semaine quand quelques autres chrétiens se retrouvent. C'est une différence importante, même si nous chantons des psaumes qui parlent d'aller au temple, d'adorer. Mais le lieu saint, c'est là où nous sommes, parce que c'est quoi le saint temple de Dieu ? C'est pas le bâtiment, c'est nous, son corps. Et chacun de nous individuellement, nous sommes son saint temple. Mais surtout 1 Corinthiens 3 nous donne le contexte que c'est toute l'Église ensemble qui est son corps que nous sommes en train de bâtir avec lui comme co-ouvriers. C'est important de remarquer la différence de perspective. Même si les autres principes d'adoration restent, c'est différent et ça nous libère de tellement de choses, n'est-ce pas? Alors considérons donc dans cette perspective-là surtout les versets 7 à 9 pour approfondir un peu ce que ça veut dire vraiment adorer Dieu d'une manière qui le glorifie. Premièrement, donc au verset 7, il y a cette exhortation d'adorer, de glorifier Dieu, de rendre gloire à Dieu. C'est repris encore même une deuxième fois au verset 8, « Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom ». Prenons un peu de temps ce matin pour définir les termes. C'est des vocabulaires chrétiens qu'on utilise dans les cantiques, dans les lectures. Mais ça veut dire quoi glorifier quelqu'un, rendre gloire à quelqu'un? Le savez-vous vraiment? Peut-être l'exemple le plus frappant, c'est lorsque Jésus a rendu la vue à l'homme né aveugle et que les autorités disent « Rendez gloire à Dieu, confessez !» Admettez, quand on dit la vérité, on glorifie Dieu, parce qu'il est vérité. Rendre gloire à Dieu, c'est dire qui il est, dire ce qu'il a fait, lui rendre ce qui est son dû. Tournez la nuance un peu, glorifier quelqu'un ou quelque chose, c'est quoi? C'est chanter des louanges. Quand l'équipe de France a gagné le mondial, il y a un certain nombre d'années de ça, tout le monde était en fête. Chanter les louanges de l'équipe. Mais c'est légitime de faire le parallèle. Est-ce que nous chantons les louanges de Dieu dans ce sens-là? Ou est-ce que nous chantons les cantiques? Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Oui, ça vient du cœur. Glorifier Dieu, c'est dire ce qui est vrai, ce qu'il a fait pour nous. Mais ensuite, il faut rajouter à cela se réjouir en lui. Donc ce n'est pas l'ordre du culte, ce n'est pas à l'extérieur comme j'ai déjà dit, mais ça vient d'un cœur reconnaissant. Ce pourquoi il est possible d'être au milieu de la foule de ceux qui adorent le Seigneur et ne pas l'adorer vraiment. Il ne suffit pas d'être présent, mais il faut répondre au Dieu qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ, par notre salut, par la grâce qu'il nous a faite. Par contre, ce qui est très important, puisque rendre gloire à Dieu, c'est déclarer aux autres, comme lorsqu'on glorifie une équipe, on félicite quelqu'un parce qu'ils ont gagné un prix, parce qu'ils ont eu leur bac, ou n'importe quelle autre raison, on le dit aux autres autour, on partage la joie. Ceux qui disent qu'ils peuvent adorer Dieu tout seul dans la nature, oui, Dieu connaît le cœur, il peut accepter leur louange. Mais ce n'est pas tout à fait vrai pour le chrétien, parce que l'adoration, c'est le corps qui se réunit ensemble. D'où l'importance, justement, quoi qu'il arrive d'autre, et comme je dis, je reviens à ma question de départ, les premiers chrétiens, la victoire de Jésus, de la mort, de sa résurrection, était suffisamment puissant qu'ils n'avaient plus peur d'être arrêtés pour se retrouver ensemble, pour glorifier le vainqueur, le Seigneur, le ressuscité. Et que cette joie-là débordait au-delà des craintes qui pouvaient avoir des conséquences. Ça, c'est un retour du cœur. S'il y avait menace d'attentat et qu'ils disaient « Oh non, non, ceux qui viennent à Vigneux, les chrétiens, les terroristes vont les tuer aujourd'hui, est-ce que vous oserez venir quand même ?» C'est presque ça le fond de la question. Dieu compte-il plus pour nous que n'importe quoi d'autre? Oui, ta bonté vaut mieux que la vie. On le chante. Est-ce qu'on le vit? Rendre gloire à Dieu, voilà ce que cela représente. Comment glorifier? C'est l'honorer, le célébrer, annoncer ce qu'il a fait, justement, déclarer son salut. Mais deuxièmement, c'est pas fini, ça commence seulement. Réaction première pour glorifier Dieu et exprimer notre reconnaissance, qu'est-ce qu'il dit? Apportez-lui des offrandes. S'il est vrai que le Seigneur permet d'utiliser les offrandes pour subvenir aux besoins, pour le fonctionnement de l'Église, le but de l'offrande n'est pas le salaire du pasteur, ce n'est pas les factures de l'Église. En ce moment-là, on a un problème fonctionnel si nous pensons de cette manière-là. L'offrande, et des passages de l'Ancien Testament, plusieurs le disent, c'est donner à Dieu pour qu'on apprenne à le craindre, c'est-à-dire encore à reconnaître qu'il est grand, qu'il est digne de nos louanges, et les offrandes reflètent ce que nous pensons de Dieu. Je peux le dire même aussi directement que ça. Mesdames, si votre mari, le jour de votre anniversaire, rentre du travail, « Ah, bon chéri, qu'est-ce que je t'aime aujourd'hui ?» Et puis, au lieu d'amener un cadeau ou un bouquet de fleurs, il a arraché une rose fanée du jardin pas bien entretenue, dit « Tiens chéri, voilà combien je t'aime. » Qu'est-ce que vous casserez sur la tête? Oui, on en rit, parce qu'on sait ce que ça représente d'être, entre guillemets, méprisé. Mais que nous dit Dieu de nous par rapport à nos offrandes? La question est pareille. Dans l'histoire de ce monde, il y a eu des crises diplomatiques, même des débuts de guerre, parce qu'un ambassadeur est arrivé les mains dans les poches ou a fait une crasse, si je puis dire, au pays qu'il allait visiter, parce qu'il n'aura pas donné une offrande digne, un cadeau qui reflétait la gloire du pays. Si dans le monde les hommes sont sensibles à cela, qu'est-ce que ça devrait nous enseigner sur notre perspective par rapport à Dieu et ce que nous lui disons par nos actes quand nous arrivons les mains vides? Je suis clair, on ne peut rien apporter pour être sauvé. Là, nous sommes les mains vides devant Dieu sans pouvoir faire quoi que ce soit. Par contre, quand nous sommes ses enfants, que nous voulons honorer, que nous lui rendons une part de ce qu'il nous a donné, qu'est-ce que nous lui communiquons de notre reconnaissance, de notre manière de glorifier? Ça crée même des problèmes pour les chefs d'État. Dieu n'a pas ce problème-là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je crois que c'était l'Arabie Saoudite qui a donné deux chevaux étalons magnifiques au président Mitterrand. Il était bien embêté parce que du coup, il fallait les garder et les garder en vie et bien les traiter. Ça a engendré plein de dépenses pour l'État. Mais c'était un cadeau royal, si j'ose dire. C'était montrer l'estime pour la France que l'ambassadeur avait en donnant un cadeau pareil. Plus près de nous, à une autre échelle peut-être par rapport à Dieu. Nous, en tant que parents, on est tellement contents quand nos enfants nous offrent quelque chose et là, on ne regarde pas le prix de valeur monétaire. Mais on voit si ça vient du cœur. Les deux sont vrais pour Dieu quand même. C'est pas le montant qui compte dans ce sens-là. Par contre, le montant proportionnel de ce que nous avons reçu de ses grâces dit le niveau de notre propre reconnaissance envers le Père pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est aussi un témoignage vers l'extérieur que Dieu compte pour nous. Pourquoi il y a eu des reproches pour Israël du temps du prophète Agé? Ah, vous vivez dans vos maisons lambrissées, bien décorées, tout nickel, au chaud, et le temple de Dieu est en ruine. Qu'est-ce qu'il est dit? Pour le résumer brièvement, vous me méprisez. Parce que vous dites que je suis un grand Dieu, mais vous ne me donnez rien, vous ne manifestez aucun respect. Juste un exemple biblique, proportionnalité de ça, c'est tellement énorme. La reine de Saba, quand elle est venue rendre visite à Salomon pour le glorifier, la traduction actuelle de ce qu'elle a porté, c'était 3,5 tonnes d'or. Je peux imaginer que beaucoup de ça a servi à couvrir d'or le lieu très saint du temple, entre autres choses. 3,5 tonnes d'or, sans parler d'épices, de pierres précieuses et tout un tas d'autres choses. Pourquoi? Parce que sa réputation était, il était le plus grand roi, le plus sage. Donc elle ne pouvait pas arriver les mains vides et ah, je veux tester ton intelligence, Salomon. Pour l'honorer, elle est arrivée avec des cadeaux royaux. Glorifions Dieu, entrons dans sa présence en apportant des offrandes. Je crois que je suis assez clair dessus, que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Entrer dans ses parvis, là, comme je dis, la différence, l'Église, c'est là où nous nous retrouvons et Dieu est présent avec nous. Mais comme il dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. D'où toute la priorité de nous retrouver en Église autant de fois que nous le pouvons. Pour toutes les raisons, mais en premier, parce que c'est là que nous nous tenons le plus clairement, le plus visiblement en présence de Dieu et que nous le manifestons au monde aussi. Donc, pas besoin d'en dire beaucoup plus là. Verset 9. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Prosternez-vous, ce n'est pas notre culture de se prosterner. Mais le cœur se prosterne-t-il devant Dieu ou est-ce qu'il est droit dans mes bottes? Seigneur, j'apporte qui je suis devant toi. Il faut que tu fasses attention à qui je suis. Vous voyez la nuance? Se prosterner était la manière orientale, ça l'est toujours, d'ailleurs dans beaucoup de pays. On se met sur les genoux, on se prosterne, même le côté bouddhiste, c'est se plier devant, montrer le respect à quelqu'un qu'on considère supérieur. Venons-nous devant Dieu imbus de qui nous sommes, ou même de qui nous sommes devenus en Christ? Oui, je suis héritier du roi, je vais régner. Oui, mais pas de cette manière-là. Glorifier Dieu, c'est reconnaître qui nous sommes et nous remettre dans notre véritable contexte. pécheurs pardonnés, mais rachetés, sanctifiés même déjà, déjà glorifiés d'après Romains 8. Mais rien en nous, par Christ, raison de plus encore de manifester notre reconnaissance, notre soumission à sa volonté, notre respect à ce que lui nous demande, s'il est vraiment notre Seigneur, le roi de l'univers. Est-ce qu'il pourrait nous mettre tous en prison pour sédition et trahison parce qu'on désobéit à tous ses ordres? Il est très patient avec nous, n'est-ce pas? Il dit quand même, malgré tout, il accepte que nos louanges. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Alors là, c'est compliqué. C'est la phrase la plus obscure dans tout ce psaume. Une autre lecture de l'hébreu dirait plutôt dans la beauté de la sainteté. Ce qui nous met sur une meilleure piste pour notre contexte à nous. Vous savez certainement que dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs avaient un habillement particulier. Le souverain sacrificateur encore plus avec la tiare, avec les pierres de toutes les 12 tribus qui représentaient symboliquement quand il entrait dans la présence de Dieu, etc. Pourquoi n'avons-nous pas d'habits de pasteur? Oui, si je suis en costume et cravate, c'est pas parce que c'est la tenue pastorale. Mais bien avant d'être missionnaire et pasteur, c'était tout simplement pour dire « Je veux honorer Dieu par mon allure, montrer que je le respecte. » Et pour moi, ça c'est costume-cravate. Pour d'autres, c'est autre chose. Mais si on recevait une invitation à l'Élysée, ou même chez Monsieur le maire, on arriverait en short, claquette, t-shirt déchiré. Ou est-ce qu'on lui ferait honneur par notre manière de nous habiller pour être reçu par une autorité? J'espère que nous faisons ça pour le Seigneur, même si, encore une fois, il regarde au cœur et non pas à l'extérieur. Par contre, pour ce qu'on constate, quelqu'un qui vient au Seigneur, sa vie est transformée. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se lave, il se nettoie, il s'habille mieux, il assume ses responsabilités, il se met à chercher un travail s'il n'en a pas, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a un respect. Donc les ornements sacrés, ce n'est pas le vêtement, mais c'est l'état d'esprit. D'autant plus encore que l'autre traduction optionnelle, mais que je pense est valable, ça se retrouve dans pas mal de passages de l'Ancien Testament, dans d'autres psaumes, dans les chroniques, dans la beauté de la sainteté. Que dit la parole tellement clairement? On ne peut pas s'approcher de Dieu sans être saint. Pourquoi est-ce que nous avons l'invitation d'entrer dans sa présence, de l'adorer, de se prosterner devant lui, c'est-à-dire montrer que nous lui sommes soumis dans la joie, dans le respect, confesser qu'il est roi? On ne peut le faire que si nous sommes revêtus de la sainteté. C'est pourquoi notre vie ne peut pas être en contradiction avec le moment que nous passons au culte. Sinon, là aussi, nous ne sommes pas vraiment en train de l'adorer. Nous ne pouvons adorer Dieu le dimanche convenablement de manière qu'il accepterait que si le restant des autres jours, nous marchons dans la sainteté, que nous agissons d'une manière qui le glorifie, qui est conforme à sa volonté et pas n'importe quoi et n'importe comment, et surtout ce qui serait contraire à sa volonté, qui jetterait un déshonneur sur lui, etc. Pourquoi, et la suite nous remet dans cette perspective, tremblez devant lui, habitant de toute la terre, dites parmi les nations, l'Éternel règne. Si à la limite nous sommes convoqués, que ce soit pas forcément au tribunal, mais que la mairie nous invite, que les autorités veulent nous voir, c'est oula, qu'est-ce qu'ils veulent? On tremble un peu. Peut-être encore plus si c'est pour les impôts. Et pourtant, si on sait que tout est en ordre, il n'y a pas à avoir peur. Mais c'est tout simplement parce qu'on sait qu'on est inférieur vis-à-vis de l'autorité, soumis à l'autorité, et l'autorité a un droit sur nous. encore plus celui qui nous a créés, celui qui règne sur tout l'univers, celui qui nous a rachetés, même si nous pouvons entrer sans crainte devant lui. Pourquoi ? La meilleure description, c'est en Hébreux 10, il n'y a pas le temps pour le lire ce matin. Mais ce n'est pas Christ par sa mort sur la croix qui dit que nous entrons dans le lieu saint, non pas sur terre, mais devant le trône de Dieu même. Oui, nous sommes littéralement à deux endroits en même temps. Tout étant là, nous sommes dans la présence de Dieu, même si nous ne le voyons pas. Pourquoi ? Parce qu'il dit, pour pouvoir obtenir grâce, miséricorde, tout ce dont nous avons besoin. Et nous pouvons le faire sans crainte. Pourquoi ? Parce que quand Dieu nous voit là devant lui, il ne nous voit pas tels que nous sommes, mais à travers ce que Christ a fait pour nous, qui nous donne ce libre accès, cette confiance. Que oui, si nous tremblons, parce que Dieu est un Dieu immense, le Tout-Puissant, nous pouvons aussi venir sans crainte, sans trembler dans ce sens-là. Mais le monde devrait trembler. Parce que comme le psaume le dit, et c'est raison de plus pour l'adorer, si le cri de votre cœur ces semaines-ci, c'est « Ah, oh, il doit avoir une justice !» La promesse de Dieu, c'est juste « Il jugera les nations avec justice !» Que tout ce qui n'a pas déjà été réglé par les systèmes humains pour rendre justice, Dieu le réglera. Et pas juste la terreur, les guerres, mais tout autre crime, tout autre désobéissance. Et ça, le monde a à trembler parce que ce serait selon la justice. La grâce est en Christ. Sinon, comme encore c'est écrit aux Hébreux, il ne reste que l'attente terrible du jugement de Dieu. Quelle grâce, quelle bénédiction, quelle raison supplémentaire encore d'adorer le Seigneur. J'espère que ces quelques mots vous ont aidé à mieux comprendre ce que nous faisons ensemble quand nous nous retrouvons. Oui, comme le dernier verset le dit, il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Et nous le reprenons chaque fois que nous reprenons le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça que nous prions. Oui, Seigneur, viens juger. Mais j'espère que nous prions aussi, oui, Seigneur, sauve ceux qui ne te connaissent pas encore, pour que le jour du jugement, ils puissent tenir devant toi en Christ, puisque sinon l'attente est terrible. Mais adorons notre Dieu dignement, dans la vérité, en esprit, mais de manière qu'il le glorifie vraiment, pas toute notre vie.